question du pouvoir sous son aspect le plus aimable, le plus souriant. Peut-être aussi le plus facile. Or, cette année, nous allons nous offrir peut-être un travail plus ingrat et qui va nécessiter de notre part, à mon idée, à mon avis, mais j'espère que Marcel Gaucher, par ses interventions, me démentira, va nécessiter, à mon avis, que nous tenions, que nous accrochions un peu si nous souhaitons, sur cette question du pouvoir, ne pas favoriser la répétition des lieux communs, mais essayer de répondre à cette première question, et qui justifie, à mon sens, que ce soit dans le cadre de cette école que la question puisse être posée, c'est-à-dire pourquoi notre relation au pouvoir peut-elle être inscrite sous le signe d'une, pour l'appeler par son nom, d'une remarquable pathologie, puisque depuis que la question est posée, réfléchie, analysée et débattue, c'est-à-dire depuis Athènes et Sparte, je crois qu'on peut dire que nous ne sommes pas sortis des difficultés. Malgré les progrès par ailleurs de la science, de la technique, nous ne sommes pas sortis, à mon sens, des difficultés de notre rapport au pouvoir. Au point que on pourrait faire remarquer que ce qui est plutôt familier pour nous, c'est que la relation à cette instance soit plutôt malheureuse. Avec la question suivante, comment est-il possible, justement, que ce déficit, nous puissions ainsi l'entretenir, et malgré, je dis bien, quand même plus de 2500 ans d'innombrables travaux, et qui ne cessent pas, heureusement d'ailleurs. Mais donc la question à nous poser à l'orée de cette année est sûrement de savoir si nous sommes en mesure d'ajouter ou de reprendre autrement ces problèmes, voire peut-être, sait-on jamais, de nous amener à poser autrement et pourquoi pas. Essayons de rêver, vivre autrement notre rapport au pouvoir. Un autre justificatif, je dirais, de l'étude de ce thème en cette école, c'est évidemment pour les praticiens de la psychanalyse, ça leur est réservé, c'est la pratique de la cure. Car il est bien évident que se manifeste dans la cure une relation que l'on pourrait dire purifiée à l'endroit de ce qui va très vite se dégager au lieu où se fait l'adresse de l'analysant comme un lieu qui vient cumuler savoir et pouvoir, et dont l'autorité est sans cesse sollicitée, bien sûr, afin de répondre, si possible, favorablement aux diverses demandes qui, à ce lieu, sont adressées. Je dis lieu, dans la mesure où, justement, la pratique de la cure, je crois que lever un secret ou lever un voile sur ce qui aurait quoi que ce soit de confidentiel ou de mystérieux, montre que en ce lieu viennent prendre place les figures diverses qui sont, au cours de l'enfance, intervenus dans une pluralité souvent déconcertante pour l'enfant, et qui éventuellement le prive. Alors peut-être que là déjà on évoque quelque chose qui nous permettrait d'avancer, qui le prive, je dirais, de ce qui serait un accès juste à l'autorité, au pouvoir. Autrement dit, ce qui peut être l'inclination éventuelle à se remparder derrière, des représentations de l'autorité, plus ou moins occasionnelles, circonstancielles, ces représentations de l'autorité, plutôt que de les relativiser, que de les mettre en abîme par rapport à ce qui ne manque pas dans une cure de se dégager comme étant l'instance effective de ce qui fait pouvoir, et dont ces représentations, dont ces avatars occasionnels sont des figurations plus ou moins détournées et plus ou moins heureuses. Enfin, bien sûr, ce qui nous justifie dans la tentative d'aborder ce thème dans le cadre de cette école, c'est que nous sommes les uns et les autres, semble-t-il, des citoyens, et que donc nous sommes forcément, dans ce qui, je ne vais pas ici m'amuser à opposer la vie privée à la vie publique, je ne crois pas que cette opposition ait tellement de sens, mais en tout cas faire remarquer que bien évidemment, la vie publique, les questions du jeu, des jeux de l'autorité, dans la vie publique nous concernent éminemment, et que nous pouvons bien entendu, et c'est l'un des aspects de la difficulté de notre relation au pouvoir, être parfois dans l'égarement quant aux options qu'il pourrait être souhaitable de prendre. Si, au cours de l'introduction de ce soir, j'aurais quelque chose à apporter sans savoir, à dire vrai, si c'est effectivement un apport ou si ça vous est au contraire parfaitement familier, si ce que je vais évoquer est un truisme, je n'en sais rien. Mais ce que je vais donc évoquer, et pour moi cela me paraît avoir un rôle essentiel, c'est que ce qui se dégage de l'expérience analytique, c'est que le pouvoir n'est pas primordialement pour chacun d'entre nous une instance, quelle que soit sa figuration, mais est un lieu, le lieu d'une adresse, un lieu, et où, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont pouvoir prendre place les diverses autorités qui sont venus le représenter au cours de l'enfance. Un lieu. Un lieu qui se distingue d'emblée dans le champ des représentations sur la scène du monde comme étant un espace retranché sous la forme classique, je dirais, du palais, voire du temple, ou encore, je dirais de façon plus claire, sur le haut, sur le sommet d'une montagne perdue dans les nuages. Autrement dit, comme un lieu que l'on pourrait dire marqué d'une extraterritorialité, même si aujourd'hui la possibilité, comme nous le savons, est donnée de visiter périodiquement les palais de la République. Néanmoins, le lieu auquel, dont se tient un pouvoir, se spécifie d'être hors champ, ou en tout cas retranché du champ de l'espace qui nous est familier, par de hauts murs, derrière lesquels, justement, va se jouer le sort, le sort des administrés. La formulation lacanienne, ceux d'entre vous qui en avaient une approche savent que ce lieu se distingue d'être, dans cette formulation, la place du réel. C'est de là que, pour un sujet, ça commande. C'est de là que ça vient, et je dirais, en dépit, je le répète encore, des diverses figures qui seront données à l'auteur de ces commandements. Un lieu, c'est de là que ça commande. Avec cette autre caractéristique qui me semble valable, c'est qu'au moment, en tout cas, où s'exerce cette intervention, cette instance ne supporte pas la concurrence et ne peut qu'être une. À l'exclusion de tout autre, d'où évidemment, bien sûr, ce que chacun de nous peut vivre dans sa biographie, c'est-à-dire la concurrence incontournable des prétentions à l'autorité, des prétentions au pouvoir. Concurrence dans la mesure où ça ne peut être partagé. Et il me semble que si nous souhaitons justement avancer sur ce thème, être plus proche des caractéristiques de cette instance, il nous faut souligner son caractère unaire. Je ne vais pas aller jusqu'à invoquer ce qui serait sa jalousie, mais après tout, ça ne me paraîtrait pas absolument incongru. Ce qui, là encore, caractérise notre adresse à ce lieu est assurément une demande. Et contrairement, je dirais, à ce que pourrait imaginer le pragmatisme, pas du tout la demande d'un objet, mais une demande d'amour. De l'amour, demande d'amour, afin d'être reconnu et de pouvoir ainsi partager au moins un trait qui serait identique avec celui supposé porté par l'autorité invoquée. Pouvoir se réclamer d'avoir ainsi au moins un trait en commun avec lui. Ce qui, là encore, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais je poursuis courageusement néanmoins, ce qui est plus gênant, c'est encore de penser que le souhait foncier de l'émetteur de cette demande est que cette autorité soit toute puissante. Soit toute puissante Autrement dit, dans, au fond, je dirais la reconnaissance du fait que, je me permets cette extrapolation qui nécessitera peut-être des reprises ou des éclaircissements, qu'elle est hors castration, qu'elle ne connaît pas de limite. Que tout, donc, lui est permis, qu'elle peut tout s'autoriser. Et si l'on essaie de donner une application plus précise à cette toute-puissance ainsi réclamée, peut-être intuitivement perçue, car peut-être bien que cette instance une dans le réel se caractérise effectivement d'être totale, d'être complète, parfaite, c'est même, je dirais, ça, son caractère essentiel de n'être pas ainsi entamé, d'être tout puissant peut-être afin de résoudre cette curieuse asymétrie qui est le propre de toute société et qui fait qu'il n'est pas à ce jour de communauté, aussi réussie soit-elle, qui ne connaisse ce clivage, cette division, qui la double d'un espace occupé par ceux qui, en ce champ, occupent la position d'autres. C'est là, assurément, un paradoxe, je dirais, de nos aspirations communautaires et qui se retrouve dès l'origine, puisque l'on oublie trop facilement, c'était Lacan qui à l'occasion le rappelait, que la cité que démocratique des Athéniens était, je dirais, dûment encerclée par une population d'esclaves et de métis qui était en nombre beaucoup plus importante, c'était les immigrés, beaucoup plus importante que celle des citoyens de la ville. Je crois on a avancé des chiffres, moi je ne sais pas du tout ce qu'ils valent, j'étais pas là, je dois dire, et je ne suis pas certain que les recensions aient été très, très rigoureuses, mais il paraît qu'il y aurait eu, je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, 40 000 citoyens et 200 000, on n'avait pas peur de l'immigration, comme vous le voyez, et 200 000 métis, etc. Ceci étant, et pour disserter un peu sur ce sujet, il est assez remarquable que à l'époque, il y avait donc non seulement ce type de clivage, sauf que ce n'en était pas un en réalité, puisque sauf affranchissement, les esclaves n'avaient pas accès aux droits civiques, donc c'était pas un véritable clivage. Mais bizarrement, il y en avait un autre qui était le clivage, j'ai déjà eu l'occasion dans d'autres circonstances de le faire remarquer, un clivage entre l'espace domestique, entre l'espace privé et la vie publique, mais qui va nous permettre de retomber sur nos pieds, en tout cas moi, me permettre de tomber aussi sur mes pieds, en faisant remarquer que l'espace domestique était livré au pouvoir de la femme, alors que l'espace public était, comme on le sait, celui de l'agora, celui des joyeuses discussion, celui des fêtes diverses, et des manifestations d'une sexualité, je dirais, parfaitement libre, libérée de toute contingence, alors que le foyer était plutôt, je dirais, le lieu du culte d'un dieu privé, dieu du foyer, dont la femme était la gardienne. Pour faire remarquer donc que très tôt, et ce n'est peut-être pas immédiatement apparent, peut-être faut-il, comme j'essaie de procéder, de l'avancer, de le préciser, un clivage de la communauté entre deux espaces, l'un qui est celui des bons hommes, qui ont le bonheur des affaires publiques et de la palabre, et puis l'autre espace, qui est déjà celui des femmes, celui aussi du dieu familial, et qui est consacré à l'éducation première des enfants. Il est, à mon idée, assez remarquable que notre intuition, notre imagination, dans la représentation de l'espace communautaire, ne puisse l'envisager que comme marqué d'une frontière qui le sépare immanquablement de l'étranger. Autrement dit, une représentation fidèle à ce que nous disent les cartes de géographie. Mais ce que ne nous dit aucune carte, car il semble que ça ne relève pas de la représentation, c'est que cet espace communautaire est lui-même systématiquement divisé entre, d'une part, la communauté, on va l'appeler des maîtres, et puis cet accompagnement d'un espace autre, qui est celui des femmes. Puisque, pour le rappeler, pour rappeler ces conditions de base, une femme n'est pas une étrangère, sauf cas aujourd'hui qui n'est pas rare, mais en tout cas par, je dirais, principe, ce qui caractérise une femme, ce n'est pas d'être une étrangère, mais en même temps ce n'est pas une semblable. Ce n'est pas une semblable puisqu'elle ne relève pas du trait, ce trait 1 que j'évoquais il y a un instant, qui caractérise la communauté des hommes et dont ils s'enorgueillissent, bien qu'il n'ait pas fait grand-chose pour ça, qu'il n'ait pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour se trouver décoré de cet insigne. Il aura suffi de paraître au plus grand bonheur des familles, et que donc dans toute communauté, une femme se distingue d'appartenir à une dimension qui n'était donc pas, car on est en train évidemment d'y remédier avec beaucoup d'énergie, qui n'est pas celle des semblables, elle est autre, elle ne porte pas ce trait, elle n'est pas marquée par ce même trait, et d'autre part, elle n'est pas non plus une étrangère, bien qu'elle vienne d'une famille voisine, du fait de cette loi qui existe encore pour le moment et qui est celle de l'échange des femmes. C'est une situation, cette séparation de toute communauté cette division de toute communauté en deux ensembles, et qui va, comme on le sait, générer des tensions réciproques, car les revendications ne sont pas seulement féministes, qui va provoquer des tensions réciproques entre les deux groupes, peut, je dirais, expliquer que l'appel soit fait à la toute-puissance d'un pouvoir qui aurait enfin, du fait de sa qualité, la faculté de faire que nous soyons enfin tous semblables, et que ce divorce, comme on le sait aujourd'hui, toujours latent, toujours potentiel, toujours possible, même dans les bons cas, et que ce divorce puisse être ainsi, je dirais, au mieux résolu, car après tout, c'est une situation qui, comme on le voit, est non seulement la source d'une séparation originaire, d'un malaise dans la culture, mais qui fait aussi que cette dimension, cet espace autre, va être le réceptacle de tous ceux qui, n'étant pas marqués de ce trait unaire originel que j'évoquais tout à l'heure, vont inévitablement se trouver rejetés dans cette dimension autre. D'où l'exacerbation adressée de la demande adressée à cette autorité, et en particulier, bien sûr, de la part de ceux, ou plus précisément de celles, qui se trouvent habiter ce lieu autre, avec le malaise qui est spécifique, je dirais, au fait d'appartenir à cet espace, ou l'insistance d'une demande d'amour, et donc d'une toute puissance de cette autorité, afin que, je dirais, l'égalité des traits ainsi dispensée par elle soit enfin assurée. Je fais cette digression parce que elle n'est pas sans intérêt sur le fonctionnement que je vais évoquer dans un instant, le fonctionnement public, politique, que timidement j'évoquerai, avec prudence, j'évoquerai dans un instant, et simplement pour faire remarquer que les grands mouvements culturels, les mutations culturelles auxquelles nous avons le bonheur d'assister, parce que c'est toujours impressionnant d'assister comme ça à des grands séismes qui modifient les règles du jeu d'une société, en particulier en ce qui concerne la répartition des hommes et des femmes, et où l'on voit bien comment l'aspiration, je dirais, libérale, se fait effectivement dans le sens d'une neutralisation de ce signe différentiel, de la promotion du genre neutre, et je crois bien que j'ai évoqué, je ne sais plus si c'est avec vous ou pas, ce qui est la naissance dans ce pays qui est toujours en avance à cet égard, c'est-à-dire la Suède, l'invention dans cette langue d'un pronom neutre. En français, on a le « on », mais le « on » ne rend pas parfaitement compte. Je veux dire, nous n'avons pas tendance à vivre le « on » comme le neutre qui vient s'opposer au « il » ou au « elle ». Hein ? Quoi ? Et donc, je pense qu'il conviendrait que nous procédions à l'invention du pronom neutre en langue française. Pourquoi si les Suédois le font, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas, nous. Je ne sais pas, j'imagine pas très bien encore ce qu'il pourrait être, mais ce serait une expérience intéressante avec, et c'est là que je rejoins le thème de notre propos de cette année, cette conclusion inattendue. Et après tout, pourquoi pas heureuse, et qui serait le fait que, une fois tous ainsi neutralisés, la référence à cette autorité souveraine que j'évoquais il y a un instant, venant occuper ce lieu autre, ne serait plus du tout nécessaire. Puisque la neutralité témoignerait justement que l'on n'a aucunement besoin pour faire agir ce qu'il en serait de la relation sexuelle, de la relation à une autorité qui, malgré la toute-puissance qu'elle allègue, a la fâcheuse conséquence de venir séparer la communauté qui s'en réclame par cette division dont chacun de nous est sensible, je dirais, aux conséquences conflictuelles qu'elle engendre. Et avec une remarque que, pour ma part, je me trouve assez scandaleux de faire. Vraiment, je m'en veux beaucoup de la faire. C'est que cet égalitarisme compte échouer à réaliser les régimes totalitaires, car n'oublions pas que l'une des propriétés spécifiques des régimes totalitaires que nous avons connus, c'était quand même l'uniformisation des citoyens. Et Dieu sait qu'on en a bien profité pour mettre les femmes à la guerre, à l'usine, au boulot. Mais, strictement égal hein, à leurs compagnons. Donc, ce qui à mes yeux est cet étrange paradoxe, mais j'espère que vous critiquerez ce point que je trouve assez difficile à supporter, et qui est la façon dont finalement une société libérale parviendrait à réaliser ce que les systèmes totalitaires a échoué à faire. Et parviendrait à réaliser du fait d'un consensus. Je voudrais avancer sur le point suivant. S'il est vrai que le pouvoir politique a pour propriété donc de se référer, de prendre appui sur cette instance qui, dans le réel, l'autorise, et dont le pouvoir politique serait le représentant, voire l'incarnation. Ça existe aussi. Non plus la représentation, mais la présentation du pouvoir lui-même. Le propre, me semble-t-il, de la démarche démocratique, et qui fut cette remarquable invention athénienne, c'est ce lieu, ainsi spontanément investi par chacun, et avec, je dis bien, les demandes spontanées qui lui sont faites à ce lieu. Ce lieu, d'avoir le courage de le vider. De le vider. Pour y déléguer des citoyens qui, on le sait, à l'époque étaient tirés au sort. Voilà. Pas besoin de faire des primaires. Tout le monde, hein, si vous êtes tiré au sort, ben, en tant que citoyen, ben, voilà. Vous êtes bon pour assumer la tâche. Et donc déléguer là des citoyens qui maintenant seraient enfin en mesure d'agir pour les intérêts immédiat, direct des habitants de la cité. Non plus donc pour ce qui pouvait sembler l'intérêt propre à cette autorité et, je dirais, la caste chargée de l'entourer, de la représenter et d'agir pour son compte. Mais donc, de vider donc ce lieu pour, si j'ose dire, le rendre enfin habitable. Et je suis sûr que parmi vous, il en est qui sont capables d'y suivre cette opération logique qui a été formalisée bien plus tard, et en particulier par Frege, c'est-à-dire que le un premier, celui précisément que je ne cesse d'invoquer au cours de ma démonstration, il n'est là que pour compter le zéro initial. Évidemment, les Athéniens n'avaient pas, je dirais, cette conceptualisation. Ils avaient droit à Pythagore et à ces petites boules, n'est-ce pas, pour calculer. Ils posaient bien des problèmes. Et ils n'avaient pas, bien entendu, cette formalisation, mais en tout cas, même s'ils n'avaient pas la faculté de l'écrire, il est clair qu'ils l'ont mise en œuvre. Autrement dit, là où tu penses qu'il y a du « un », ben, ce 1, cette instance dont je parlais tout à l'heure, elle ne se soutient que du fait que elle est appliquée supposée venir habiter ce lieu autre qui se définit d'être vide. Une formulation, je dirais, de la sorte, Le fait, après tout, que rappeler? Et là encore, je reviens, et c'est ce qui, me semble-t-il, donne quelques éventuelles justifications à mon propos, s'il n'est pas arbitraire, c'est que la vocation de la cure analytique pour Freud consistait précisément à relever ce mécanisme à peu près général, mais pas universel, mais presque général. Et je dois dire que les cas qui sont réfractaires sont assez intéressants, justement, à relever donc les phénomènes de transfert, c'est-à-dire cette production expérimentale de cette demande qui met en place, cette demande spontanée, naïve, qui met inéluctablement en place l'autorité qui sera le lieu d'une adresse, avec toutes les exigences, les réclamations, les plaintes, les déclarations d'amour, les reproches, voilà. Tout ce qui constitue le fond, on a presque envie de dire légitime, classique, d'une existence. Et le fait pour Freud, la grande hardiesse, et je pense que je vais partager le discrédit qui n'a pas manqué de le marquer lui-même, le fait de dire que cette addiction, c'est moi qui dis addiction, hein, addiction dans la mesure où c'est l'instance indispensable, hein, qu'on ne peut pas s'en passer. Que le dialogue intérieur, il est tout à fait sapante, c'est spontanément d'aller vers lui, de lui dire tu vois un peu là ce qui se passe, puis tu me vois moi de quoi j'ai l'air. Et bien donc cette instance, cette relation à cette instance une, est, dit Freud, une marque d'infantilisme prolongé, c'est-à-dire l'incapacité du sujet parlant à prendre ses responsabilités et la nécessité où il se trouve chaque fois de s'autoriser de celui qui, dans l'autre, en ce lieu, viendra le légitimer. Et que donc, l'opération de la cure, elle viserait à ce qu'il appelle donc la résolution du transfert. Ce qui est remarquable, c'est que lui, pour lui-même, il est clair qu'il y est parvenu. Mais l'histoire du mouvement analytique nous montre que, assurément, pour ses élèves, ça a été beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, et que le mouvement spontané, que le mouvement naturel, en quelque sorte, de ses élèves, était plutôt de chercher à se référer à un maître qui serait, je dirais, d'une exactitude et d'une puissance supérieure à celui que Freud était susceptible de mettre en place et d'invoquer. Donc, on ne peut pas le dire autrement. Échec de l'opération freudienne concernant ce qu'il en serait de la fin du cure, c'est-à-dire le fait de permettre à un sujet de savoir qu'il ne peut constamment s'abriter d'une légitimité qui ne fait qu'hypostasier, même si elle est publiquement partagée par tout ce que l'on voudra, et donc s'autoriser de ce qui sera son jugement, sa responsabilité, etc., etc. Et pour ceux d'entre vous qui connaissaient un peu la seconde, l'épopée numéro 2, c'est-à-dire l'épopée lacanienne, qui fut pas moins agitée que la précédente à Vienne, et c'est merveilleux, je dois dire, car moi je n'ai malheureusement pas connu Vienne, mais j'ai connu assez bien Paris. Et je dois dire que le côté passionnel sans discontinuité, de ce qui pouvait venir s'accumuler à l'occasion de ce qui là était en cause. Et en particulier le fait qu'un élève ne peut avoir qu'une ambition. Pourquoi est-on élève? Je ne parle pas pour vous, bien sûr. Mais on est élève parce que l'on espère bien devenir un maître à l'issue, en général. C'est bien pour ça qu'on est élève. Et voilà un enseignement qui vous apprend qu'à l'issue, ben justement, c'est pas la maîtrise qui vous est proposée. C'est quoi alors? Ce qui vous est proposé, je vais reprendre là encore un terme de Lacan, c'est d'être un saint. Ce qui n'est pas forcément une vocation très partagée. C'est-à-dire celui qui renonce aux pompes absurdes et qui sait que les fins dernières à lui-même lui restent définitivement voilées et obscures et que sa sainteté c'était bien pour rien et pour personne. Donc, ce n'est pas une vocation, je dirais, qui, à l'exception du transfert, suscite tellement d'attrait et qui risque cette vocation de se retourner à partir du moment où va se trouver révélé. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de disciplines qui puissent être assimilées, qui soient analogues à celle-là, celle de l'analyse. Beaucoup de disciplines, il va se révéler aux disciples qu'à la fin, ce n'est pas du tout une maîtrise qu'il a acquis. Certes, une réflexion et une analyse du phénomène de maîtrise, mais pas la maîtrise. Et donc, façon dont, à l'exemple de celle de Freud, l'opération lacanienne a échoué, en particulier sur ce qui s'est joué dans ce qu'il a appelé la procédure de la passe, destinée précisément à essayer collectivement d'évaluer ce que l'on appelle les effets d'une fin d'analyse, et qui ont été procédure qui a été jugée insupportable, mais qui a eu quand même l'avantage de faire vivre à la communauté des émotions d'une intensité exceptionnelle et assurément regretter, parce qu'on ne vit pas tous les jours des sentiments aussi vifs, aussi forts. Et avec chaque fois cette question, mais pour que ça déclenche tant d'agitation, tant de mouvements, tant d'engagement, de désertion, de révolte, de cri, mais de quoi ? Qu'est-ce qui est en jeu ? Eh bien justement, ce qui est en jeu, c'est ce que je suis en train d'évoquer pour nous. Et pour terminer sur une note heureusement optimiste, comme vous allez le voir, je dirais que dans ce qui me paraît la pathologie de notre relation au pouvoir, s'insère une dimension majeure et qui est celle du masochisme. Lorsque nous parlons, après tout, de surmoi, ou d'idéal du moi, qu'est-ce donc que ce rapport à des instances aussi essentielles, rarement contournables, si ce n'est qu'une épreuve masochiste? Autrement dit, la dépréciation de soi-même, toujours entamée, toujours imparfaite, toujours incomplète, face à ce qui est la totalité unaire, idéale, de cette instance incarnant le pouvoir. Avec deux suppositions qui valent ce qu'elles valent. La première, c'est que la deuxième topique freudienne, c'est-à-dire celle qui estime, dans l'au-delà du principe de plaisir, qu'il y a chez les créatures parlantes une dose irréductible de masochisme réfractaire à ce qui serait une guérison. Autrement dit, cette espèce de vœu secret de maintenir une relation masochique à l'endroit de la puissance tutélaire, est-ce que ce n'est pas cette réaction masochique une façon justement de nous assurer qu'elle est toujours là? Autrement dit, de la faire exister. Et deuxième supposition, celle qui verrait dans le travail de Freud sur le malaise dans la culture, et donc le mésusage de la sexualité, là encore un trait qui serait de type masochique dans notre rapport à cet instant, c'est-à-dire cette sorte de, ce qui serait quasiment une contrainte à réaliser le ratage. Il ne faudrait pas que ça marche trop. Il est évident que si ce que je suis en train de raconter a son fondement, cela peut-être expliquerait que finalement, sur la question de notre relation au pouvoir, nous soyons finalement immuables dans ce masochisme. Autrement dit, que nous ne voulions pas trop y voir, que finalement, c'est comme ça. Hmm? Ceci donc, en guise de conclusion ce soir, pour m'arrêter, et nous laisser quelques temps pour que les objections puissent fleurir, ce fait qu'il serait légitime quand le régime démocratique oscille entre le désir de liberté et l'aspiration à un pouvoir fort. Et qu'il n'y a aucun inconvénient à ce que les deux puissent coexister chez la même personne. Ce serait un point, à mon sens, bien entendu, qui appelle des développements, mais dont on voit bien que si c'est la modalité de notre rapport au pouvoir, c'est-à-dire d'une autorité qui serait souveraine et en même temps d'une liberté qui trouverait l'obstacle nécessaire pour qu'elle puisse s'affirmer et sans lequel elle n'aurait aucune justification, aucun fondement, sans lequel elle ne tiendrait pas. Eh bien, on peut imaginer qu'il y a là une façon de lire le destin des démocraties d'une manière qui peut-être est intéressante. Et pour terminer enfin sur une note vraiment amusante, parce que celle-là, elle est à moitié amusante seulement. Donc, pour terminer sur une note vraiment amusante, j'ai pas fait exprès, mais j'ai connu plusieurs régimes. J'y suis pour rien, hein, c'est comme ça. J'ai connu la Troisième République et son école remarquable. Remarquable. Et ses instituteurs remarquables. Sans doute très patriotique. Donnant aux enfants une idée de ce qu'était la spécificité de la France, fille de la Révolution, de la République française. Mais les événements ont montré que ce n'était pas tout à fait inutile. En tout cas, j'ai donc connu ce régime. J'en ai connu un autre, dont la capitale était Vichy, sur lequel je ne m'étendrai pas, si ce n'est de ce qui était déjà à l'époque la surprise de voir que à cette place qui est donc celle du pouvoir, cette place était susceptible d'être habitée par un malheureux, voire un débile, et que cela ne faisait pas de problème public majeur. C'est une expérience, quand on est jeune, c'est une expérience intéressante et qui amène forcément à réfléchir. J'en ai connu ensuite un autre, qui était la Quatrième République, et où j'ai pu vérifier, puisque j'avais une certaine connaissance de la Troisième, que, comment dirais-je, loin justement de se référer à une instance une et unitaire, la division entre partis était susceptible d'introduire un écartèlement menaçant pour le pays. J'ai connu la Cinquième, née, comme nous le savons, des événements d'Algérie et qui a tenté de rétablir ce qu'il en était d'une référence nationale unaire, avec le succès que l'on sait. En tout cas, ce qui je dirais personnellement persistera à m'interroger sur une dimension qui m'est bien sûr chère, qui est celle de la liberté. La liberté. Tenez-vous à votre table. À l'aurore de la liberté. La liberté enfin établie entre citoyens. La figure de Sade. Autrement dit, la liberté donnée cette fois-là à chacun. Autrefois, il fallait être aristocrate pour ça, ou encore appartenir au tiers-état. Mais cette fois-là, la liberté donnée à chacun d'entreprendre. Plus besoin d'être de noble origine, ni même d'avoir, au départ, amassé une petite fortune. La liberté donnée à chacun d'entreprendre, y compris pour Sade, la liberté donnée à son propre valet d'entreprendre de la façon dont il voudra, c'est-à-dire la liberté donnée à chacun de jouir de son semblable, de venir occuper cette position maîtresse que j'évoquais tout à l'heure, et donc cette liberté venant réintroduire dans la communauté ce clivage, cette division, que j'évoquais tout à l'heure, mais avec cette fois-ci la faculté enfin donnée à chacun selon ses mérites et son talent, voire plus simplement selon ses goûts et ses perversions, de venir occuper la place du maître et d'agir au gré de ses fantaisies. Cette dernière remarque, pour simplement essayer de solliciter, j'espère vivement que cette provocation amènera Marcel Gaucher à intervenir et à, je dirais, corriger cet aspect. Peut-être souligner combien nous avons chacun de ces termes, si nous ne voulons pas en être, les sujets contraints, nous avons à les mesurer, à les évaluer, à en saisir les limites. Comme je l'évoquais récemment avec Marcel Gaucher, ce rappel que je fais de la liberté à propos de ça n'est pas du tout la définition que Lacan en donnait. Pas du tout. Ça, c'est moi là qui joue un mauvais tour. La définition que Lacan en donnait, je l'ai rappelé à Marcel Gaucher, c'était que la créature parlante n'a jamais que la liberté de désirer en vain. Avec le fait que si cela est vrai, on voit bien comment du même coup une adresse se dessine vers l'autorité qui serait capable de corriger ce grave déficit, ce déficit insupportable, avec les conséquences ordinaires que nous savons, et donc, que nous avons peut-être quelque intérêt à essayer d'allumer notre lanterne sur ces divers points. Je vous remercie d'avoir été pacifique pendant cet exposé. Et je serais heureux si vous vouliez intervenir.
Merci. Mais vous voyez, vous attendiez la révolte. Vous ne l'avez pas vue. C'est bien que le rapport au pouvoir est un peu plus compliqué que la demande d'une autorité qui s'imposerait. Je voudrais dire juste un mot sur la difficulté et l'intérêt essentiel qu'il y a à aborder cette question. C'est une énigme, le pouvoir. C'est l'énigme même des sociétés humaines. C'est une anomalie. C'est une anomalie dont les gens qui réfléchissent sur la société à des titres divers, dans toute la modernité, ont essayé ou de proposer une version rationnelle par le droit. On va mettre tout ça qui était dans l'obscurité, l'obscurantisme, dans la clarté des principes. On va savoir ce que c'est, on va le contrôler. Ou bien, dans une démarche encore plus ambitieuse, se sont proposés de l'abolir. Le projet moderne, dans ce qu'il a d'original, c'est l'abolition du pouvoir. Et pour aller tout de suite à la conclusion, on s'est aperçu que c'était un objet singulièrement résistant à l'abolition. Mais après tout, prenons l'historique le plus ancré dans toutes nos représentations du passé, telles que les grands théoriciens de l'histoire l'ont construite depuis deux ou trois siècles. Qu'est-ce que c'est le pouvoir au départ? C'est la superstition religieuse. Il y a une sorte de... Il y a des imposteurs, un des plus grands textes d'origine de la modernité, le traité des trois imposteurs a donné à ce thème toute sa force. Il y a des malins qui font miroiter des sortilèges aux yeux des imbéciles, qu'ils dominent par ce moyen en évoquant des forces surnaturelles auxquelles ils auraient un accès privilégié. Enlevons la superstition et le fanatisme et on sera délivré du pouvoir. Bon, il y a un objet qui résiste. Ici, c'est la force, le monopole de la force, qui peut contraindre. Et ce monopole de la force, il revêt dans les sociétés contemporaines un aspect plus compliqué que simplement dans les sociétés guerrières du passé, où la capacité militaire était la clé de la subordination des masses, c'est la propriété des moyens de production en particulier. Abolissons la propriété privée des moyens de production et s'en sera fini du pouvoir. On aura une restitution par la propriété collective de cette capacité redistribuée à chacun, à la mesure de sa participation, la propriété commune. Mais il faut évoquer, parce que ce schéma-là a échoué, comme vous le savez, et abouti à la construction de régimes de propriété collective qui n'étaient pas spécialement des régimes de la redistribution du pouvoir à la société tout entière, mais le comble de la séparation, justement. Il y a une autre version qui aujourd'hui retrouve vigueur et qui est à la fois plus modérée et plus sûre par la voie qu'elle dessine, qui est la voie de la juridisation du pouvoir, qui est la philosophie de nos sociétés. À défaut de pouvoir s'en délivrer d'un seul coup, encadrons ce pouvoir par la définition des droits qui sont ceux des citoyens qui le désignent et la délimitation de ces attributions dans des constitutions. On aboutit à un ordre constitutionnel, libéral, où la maîtrise de la formation du pouvoir par le suffrage et la limitation du pouvoir par les droits reconnus à la société civile et aux individus qui composent cette société, le tout arbitré par des juges, nous donne, à défaut de l'abolition du pouvoir, le moyen de s'assurer la maîtrise de ces opérations. Version plus limitée dans ses ambitions et manifestement plus opératoire, mais qui néanmoins laisse subsister l'énigme, car il y a toujours un pouvoir et qui échappe, dans une large mesure, en dépit de toutes les régularisations juridiques qu'on peut lui apporter, à la prise de ceux qui le désignent. Pourquoi y a-t-il du pouvoir dans les sociétés humaines ? C'est une de leurs spécificités. C'est un grand sujet d'aujourd'hui, puisque dans le rapprochement et l'abolition des sympathiques différences que Charles Mellement évoquait tout à l'heure, il y a l'abolition des différences entre l'homme et l'animal. Après tout, les grands singes supérieurs, eux aussi, il y a des mâles dominants qui se font respecter sévèrement. Il y a du pouvoir. Non, je crois que, justement, on y reviendra parce que c'est une question capitale. Ces phénomènes de domination qui existent dans les sociétés animales n'ont rien à voir avec ce qu'est le pouvoir dans les sociétés humaines qui résiste à notre prise. Et nous ne savons pas ce que c'est. Alors, cette dimension énigmatique soulignée, ce que je voudrais souligner, c'est la difficulté qu'il y a d'aborder la question du point de vue que nous essayons de faire ici. C'est que il y a un rapport psychique au pouvoir, qui est la dimension généralement totalement escamotée par les spécialistes de la politique et de la société, qui ne veulent pas en connaître grand-chose au-delà des études d'opinion qui permettent de s'assurer vaguement du contenu, la présentation qu'on se fait du titulaire temporaire du pouvoir. C'est évidemment d'autres choses qu'il s'agit. Comme ce qu'a dit Charles Mellement en témoigne, perspective psychanalytique sur cette question, très peu développée en réalité. C'est une question qui a été pratiquement laissée de côté, en dehors de quelques moments très particuliers dont l'œuvre de Freud témoigne, et qui n'ont pas eu en fait une grande postérité. On a repris les analyses freudiennes, mais est-ce qu'on s'est tellement soucié d'y ajouter ? Je ne le vois pas sur ce chapitre. Mais par essence, je dirais, l'interprétation psychanalytique de ce rapport psychique au pouvoir tend vers une analyse de structure qui établit l'immuabilité de ce rapport. On le retrouve toujours et partout le même. Et après tout, cette interprétation corrobore le phénomène que je pointais à l'instant, à savoir la résistance du pouvoir à son abolition ou à sa maîtrise. C'est peut-être qu'il y a là-dedans des ressorts qui, en effet, vont plus profond que ce que la vie sociale de surface et ses règles permet de saisir. Cette vision structurelle du rapport au pouvoir que propose la perspective psychanalytique paraît largement corroborée par les échecs des tentatives politiques de maîtriser le pouvoir dont témoigne jusqu'à présent notre modernité. En même temps, il y a bien une vraie difficulté qui tient à la muabilité des formes de ce pouvoir, et en particulier à la promotion moderne, même si elle a d'illustres ancêtres dans l'Antiquité, de la volonté de liberté. Au fond, l'une des spécificités du monde dans lequel nous vivons depuis quelques siècles, c'est d'avoir mis au premier plan quelque chose qui a surgi épisodiquement dans l'Antiquité, mais durant une durée très brève, en fait. Le désir de liberté, qui a bien trouvé, malgré tout, et en dépit de toutes les limites dont nous avons parlé, une manière de traduction dans le fonctionnement des sociétés. Nous sommes plus libres, incontestablement, que ne pouvait l'être un manant du XIe siècle, ou encore un prolétaire du XIXe siècle, de la première révolution industrielle. Il se passe bien quelque chose qui agrandit la place du désir de liberté, en dépit de l'aspiration à un pouvoir fort que vous mentionniez, et je crois qu'on peut s'accorder sur ce point, l'histoire aussi en témoigne. Mais du moins, s'effectue-t-il dans la marge des sociétés une négociation qui ne laisse pas immuable, elle, le rapport au pouvoir, du point de vue du fonctionnement de la vie collective. Certes, l'aspiration à un pouvoir fort peut demeurer, il n'empêche que la place de l'aspiration à la liberté et la volonté de la traduire dans les faits gagnent en importance, en centralité, dans la vie de nos sociétés. Tellement que, me semble-t-il, nous sommes arrivés à un point où la problématique s'est transformée de nouveau depuis quelques décennies, tout récente. C'est un événement tout récent, mais d'une immense portée. Parce que nous sommes en train, non pas d'abolir le pouvoir, mais de le rendre collectivement impuissant. Il est toujours là, institutionnellement, nous continuons de voter, mais de manière de plus en plus désabusée, parce que nous voyons bien que ses capacités de force et d'action délibérées sont de plus en plus limitées. Et mieux que cela, nous pouvons nous demander si l'aspiration même à un pouvoir fort subsiste encore dans nos sociétés, est encore capable de se formuler, oui, peut-être à l'état de fantasme d'individu, et encore, j'ai des doutes sur ce point. Mais enfin, prenons l'actualité, interroger les électeurs du Front National, d'une certaine manière, ils aspirent à un pouvoir fort, on pourrait dire ça comme ça. Mais ils savent parfaitement que ce pouvoir fort est impossible. Ils n'ont aucune idée là-dessus. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas et ils n'y croient pas de très bien de l'intérieur parce que leurs ressorts psychiques sont de toute façon de refuser de se soumettre à un pouvoir fort quel qu'il soit. Donc là, la contradiction, l'ambivalence que vous signaliez entre ces deux pulsions très fortes, passionnelles, la politique, c'est le domaine de la passion, irréductiblement, où les lumières rationnelles n'ont jusqu'à présent que très faiblement pénétré. On peut bien le dire. Mais en dépit de cela, nous voyons apparaître une configuration parfaitement inédite des pouvoirs immenses, institutionnellement parlant, avec des capacités de mobiliser une richesse collective incomparable dont on ne pouvait avoir aucune idée dans l'histoire, est à peu près rigoureusement incapable d'appliquer cette puissance potentielle qu'il possède à une action sur la société, avec un désarroi du désir politique par rapport à ces figures classiques, ou désir de liberté, ou désir d'un pouvoir fort, qui est complètement désorienté. On ne sait plus vraiment ce qu'on veut. Le désir politique des citoyens dans nos sociétés me semble frapper d'une indétermination fondamentale qui nous permet peut-être d'interroger plus avant les ressorts qui sont là en jeu. Et cette question me tient d'autant plus à cœur que je crois qu'en effet, il y a un lien étroit entre l'économie psychique ou le pouvoir, le point de vue du pouvoir, la logique du pouvoir joue un rôle. Vous évoquiez le surmoi. Qu'est-ce que le surmoi ? C'est l'intégration psychique du point de vue du pouvoir dans l'inconscient. Donc on n'est pas là devant un phénomène. Évidemment, spontanément, ce que nous voyons du pouvoir, c'est l'action extérieure, les institutions sociales. Mais non, il est au-dedans. Et sous des formes sur lesquelles nous savons très peu. Parce que on a des images très faciles de ce surmoi, mais quel est le contenu, psychiquement parlant, du surmoi ? Qu'est-ce que nous savons là-dessus ? Et nous sommes au lieu du lien entre ce qui fait de nous des êtres psychiques dotés d'une intériorité, d'un inconscient qui nous est absolument propre, totalement singulier, et en même temps des êtres sociaux, des êtres qui ne se définissent que parce qu'ils partagent avec d'autres, à l'intérieur d'une communauté, qui tient par un pouvoir. Le pouvoir, c'est le lieu où se fait la jonction de l'individuel le plus irréductible et de l'appartenance à une collectivité, à une communauté politique. D'où l'intérêt profond qu'il y a éclairé l'un par l'autre ces deux phénomènes. C'est le sens de la démarche que nous allons tenter. Mais je voudrais terminer par une question importante. C'est ce mouvement que nous allons essayer d'explorer, y compris dans ces développements les plus contemporains. Sommes-nous, comme de bons observateurs peuvent le souligner, l'avancer devant quelque chose comme une fin du pouvoir? Il y a beaucoup de phénomènes qui plaident dans cette faveur. On reviendra sur un livre qui porte ce titre, The End of Power. Si le pouvoir est fini, alors il faut revoir sérieusement nos batteries. S'il n'a plus qu'une existence institutionnelle sans aucune consistance effective et qu'il ne veut plus rien dire comme pouvoir au sujet psychique. Il ne signifie plus rien. Il n'en attend plus rien. Il ne lui demande plus rien. Donc, c'est ça notre question. Mais là, je voudrais revenir à deux problèmes. À un problème en particulier, je vais les rassembler dans ce que vous nous avez dit. Ambivalence, pour reprendre le terme le plus classique dans le rapport au pouvoir, désir de liberté, bon, refus du pouvoir, de quoi est fait le désir de liberté ? Qu'est-ce que c'est que le désir de liberté ? C'est pas simplement faire ce qu'on veut dans son coin, ça c'est la traduction infantile qu'on entend là. Volontiers, mais ça va un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est le désir de liberté ? Et donc, aspiration à un pouvoir fort. C'est là que la difficulté commence. Aspiration à un pouvoir que l'on subit comme fort, dont on attend qu'il soit fort, et donc qu'il exerce à votre égard une autorité. Là, nous sommes dans une dualité aisément intelligible. Mais il y a un troisième terme qu'il faut faire intervenir dans ce tableau, c'est le désir d'exercer le pouvoir, le désir de domination, qui n'est pas l'aspiration à un pouvoir fort. Le pouvoir fort, encore une fois, il va vous opprimer plutôt que... Qu'est-ce que c'est que ce désir de dominer qui n'est pas, où est-il dans la typologie que nous pouvons dresser ? Et où est-il dans la subjectivité des individus ? Parce que c'est le grand absent, au fond. La philosophie de nos régimes représentatifs comporte une anthropologie implicite. Mais nous n'avons affaire qu'à des saints, comme vous disiez. Ils n'ont rien demandé, mais simplement, par un souci de la chose commune, ils se portent à nos suffrages. Et c'est avec épouvante qu'ils abordent ces fonctions qui vont les séparer de leurs femmes et de leurs enfants. Évidemment, c'est une fable. Il y a un désir d'exercer le pouvoir. Il suffit d'avoir un peu approché le monde politique, même d'assez loin, pour le voir à l'œuvre. Il est féroce. Même quand il est très civilisé dans nos sociétés où, de préférence, on n'engage pas de tueur à gage pour se débarrasser de ses adversaires. Ça arrive, mais c'est rare. Quel est ce désir-là? Est-ce qu'il n'est pas un idéal du moi, indépendamment du fait qu'on l'assume soi-même? Est-ce que, précisément, où se loge-t-il? Est-ce que l'aspiration à un pouvoir fort se ramène simplement à une sorte de désir par procuration d'en voir d'autres exercer leur appétit de domination? Je crois en tout cas qu'il faut introduire ce troisième terme qui est le plus neutralisé dans nos sociétés. C'est celui dont personne ne dira « je veux exercer le pouvoir ». Et quand apparaît un pur appétit de pouvoir chez un individu dans nos sociétés, il est disqualifié politiquement. Il n'y a pas plus mortel pour l'image d'un homme politique aujourd'hui que la perception collective que ce qui le meut uniquement, c'est le désir du pouvoir. C'est impossible. Je crois que l'actualité récente, je n'ai pas besoin de citer de nom, nous en donne de bons et de bonnes illustrations. Alors, où le met-on, celui-là? Voilà. Question annexe, purement anecdotique, pour rire un peu. Lacan était-il un saint?
Il faut que je réfléchisse.